Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1688 et continuellement enrichi par Jean de la Bruyère jusqu'à sa mort, Les caractères ou les mœurs de ce siècle est un recueil de remarques, de maximes et de portraits satiriques. Il ne propose ni intrigue ni personnages suivis, mais une vaste observation des conduites sous le règne de Louis XIV. Dans 16 chapitres, l'auteur examine notamment la cour, la ville, la conversation, la richesse, le pouvoir, la guerre et la religion. Il revendique le modèle antique de Théophraste, tout en le transformant en enquête incisive sur la société française de son temps. Les individus nommés par des pseudonymes deviennent des types humains, reconnaissables par leur vanité, leur égoïsme, leur ambition ou leur goût de la représentation. Le projet est moral au sens classique, discerner les passions et les illusions qui règlent les comportements afin de faire réfléchir tout en divertissant. La concision, la variété des formes et la précision du style font de ce livre un monument de la prose moraliste. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le portrait satirique transforme les individus en type humain. La forme la plus mémorable du recueil est le portrait. La Bruyère ne cherche pas à produire une biographie fidèle ni une psychologie complète. Il isole un trait dominant, le place dans des gestes, des paroles et des scènes concrètes, puis le pousse jusqu'à ce que sa logique devienne visible. Ganaton, figure reconnue de l'égoïsme, existe moins par une description physique que par sa manière d'occuper tout espace et de traiter les autres comme de simples obstacles. Cette méthode donne au lecteur une démonstration en acte, le vice est vu avant même d'être jugé. Les noms empruntés à une tradition savante ou fictive protègent aussi la portée générale du texte. Derrière un courtisan, un bavard ou un parvenu particulier se dessine une conduite possible dans toute société. La caricature ne vise donc pas seulement le rire. Son excès révèle les mécanismes ordinaires que la politesse et les apparences dissimulent habituellement. La Bruyère rend ainsi sensible le contraste entre la prétention des personnages et leur faiblesse réelle. Ces portraits servent de contre-modèle à un idéal de mesure, de naturel et d'attention à autrui. Leur efficacité tient au mouvement les personnages agissent, parlent et se trahissent eux-mêmes au lieu de recevoir une leçon abstraite. Deuxièmement, la cour apparaît comme une machine à fabriquer la dissimulation dans les pages consacrées aux grands et à la cour. La Bruyère analyse un monde où la dépendance envers la faveur déforme les rapports humains. Le rang, la proximité du pouvoir et les signes visibles de richesse y comptent souvent davantage que le mérite personnel. Pour demeurer présent dans ce système, le courtisan doit observer sans cesse les hiérarchies, deviner les volontés dominantes et ajuster son comportement. La flatterie ne relève donc pas seulement de la faiblesse individuelle, elle devient une technique de survie sociale. Cette contrainte explique le caractère théâtral de la cour. Chacun y compose une image de soi, affiche des sentiments utiles et craint de paraître naturel lorsque le naturel risque de nuire. La métaphore du théâtre permet à la Bruyère de dénoncer une société dans laquelle les personnes deviennent des rôles. Toutefois, son regard ne se limite pas à condamner quelques imposteurs. Il montre comment une organisation fondée sur la faveur encourage la rivalité, l'intrigue et la servilité. La critique porte ainsi sur le système autant que sur ceux qui y participent, en opposant implicitement le mérite au privilège. Le recueil pose une question durable : comment juger une personne lorsque sa réputation dépend surtout de son réseau, de son apparence et de sa position ? Troisièmement, l'amour-propre relie vanité, ambition et besoin de paraître. La Bruyère appartient à la tradition des moralistes qui étudient l'amour-propre, c'est-à-dire la tendance de chacun à se placer au centre de son jugement. Cette force explique des conduites très diverses dans le livre « Désir de briller dans la conversation ». Passion de la mode, affichage de la fortune, recherche des protections et jalousie envers ceux qui réussissent. L'auteur ne présente pas ces phénomènes comme de simples défauts isolés. Ils se renforcent mutuellement car la valeur que les personnages se donnent dépend du regard des autres. La vie sociale devient alors une compétition pour être remarquée, admirée ou enviée. Les riches peuvent confondre possession et mérite, tandis que certains esprits prétendent à la profondeur par le jargon, la contradiction ou le pédantisme. La Bruyère révèle le vide de ces démonstrations en confrontant les apparences à leurs effets concrets, manque d'écoute, injustice, impolitesse ou incapacité à reconnaître une vraie qualité. Son ironie évite pourtant le traité systématique. Une pointe finale, une opposition ou une scène brève suffit souvent à faire tomber le masque. Cette économie de moyens oblige le lecteur à compléter le jugement. Elle rend la critique plus active en reconnaissant les ressorts du paraître chez les autres. Chacun est invité à examiner ses propres habitudes de distinction et de comparaison. Quatrièmement, la satire sociale inclut la richesse, la misère et les abus du pouvoir. Réduire les caractères à une galerie amusante de courtisans ferait perdre une dimension essentielle de l'œuvre. La Bruyère observe aussi les écarts entre l'opulence des privilégiés et la condition du peuple. Ses remarques sur les paysans, dont sur la guerre et sur le gouvernement introduisent une interrogation morale et politique. Un pouvoir peut-il être légitime lorsqu'il oublie ce dont il dépend ? Le bon souverain est envisagé à partir de la justice, de la modération et du souci du bien commun, non à partir du faste. Inversement, la violence arbitraire, les dépenses de prestige et l'indifférence aux souffrances collectives signalent la dégradation de l'autorité. La dénonciation de la guerre suit le même principe. Au lieu de glorifier les conquêtes, la Bruyère rappelle ce que les abstractions de la puissance peuvent coûter au corps et aux existences. Cette attention ne fait pas de lui un penseur politique moderne au sens strict, car son horizon demeure celui de la monarchie de son siècle. Elle donne néanmoins au recueil une portée qui dépasse la satire mondaine. La critique du luxe, de la fortune et du privilège révèle que les mœurs ne sont jamais purement privées, elles sont façonnées par des rapports de domination. La lucidité morale devient ainsi une manière de questionner l'ordre social. En dernier lieu, la brièveté et la variété du style font réfléchir sans discours pesant, la composition fragmentée des caractères est indissociable de sa pensée. Maximes, dialogues implicites, anecdotes, tableaux et portraits se succèdent sans former un système rigide. Cette diversité correspond à un projet d'observation, les passions humaines se découvrent dans des situations multiples et exigent des formes adaptées. Une maxime condense une relation générale entre les comportements. Un portrait en action en montre les conséquences sensibles. Une fiction ou un détour ironique autorise une critique plus audacieuse. La Bruyère hérite du goût classique pour la clarté, l'ordre et la mesure, mais son écriture demeure mobile et mordante. Les accumulations accélèrent parfois le ridicule, les contrastes dévoilent une contradiction, et la chute donne à une remarque sa force mémorable. Le lecteur n'avance pas vers une conclusion narrative, il circule entre des observations qui demandent à être rapprochées, méditées et relues. Cette forme brève rapproche le livre de la conversation cultivée des salons, où la vivacité de la formule doit plaire autant qu'instruire. Elle explique aussi pourquoi certains passages restent immédiatement accessibles, tandis que d'autres requièrent un contexte historique. Le recueil ne se contente pas de défendre une morale, il fait éprouver, par le plaisir du style, la différence entre une parole juste et les discours vides qu'il ridiculise. En conclusion, Les Caractères convient particulièrement au lecteur qui souhaite comprendre la société de cour sous Louis XIV sans se limiter à une approche historique, ainsi qu'aux amateurs de prose classique, de satire et de réflexion morale. Il peut aussi intéresser les lecteurs de Molière, Pascal ou La Rochefoucauld, car il explore un territoire voisin, la distance entre ce que les hommes affichent et ce qui les conduit réellement. Sa lecture demande une disponibilité particulière. Il est souvent plus fécond de lire quelques remarques, de s'arrêter sur un portrait et de revenir au texte, plutôt que de rechercher la progression continue attendue dans un roman. En retour, cette lenteur développe l'attention au choix de langage, aux mécanismes de réputation et aux effets du pouvoir sur les conduites. Le bénéfice intellectuel du livre réside autant dans ses analyses que dans son exercice du jugement. Il apprend à repérer la vanité derrière les signes de grandeur et la dépendance. Derrière certaines démonstrations de prestige. Par rapport au recueil de maximes plus abstraits, La Bruyère se distingue par la vivacité scénique de ses personnages et par l'ampleur de son regard social. Par rapport à une simple chronique de Versailles, il dépasse le document d'époque en transformant ses observations en figures durables. La force singulière de l'œuvre vient de cette alliance entre précision historique, ironie littéraire et interrogation persistante sur les manières humaines. Si vous souhaitez soutenir Jean de La Bruyère, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.